L'agité du...
Loupé.
Avec Marie.
Et Claire.
Avec Marie.
Et Claire.
Et avec Marie.
Et Claire.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'agité du local. Et oui, vous l'avez compris, donc animé par Claire et Marie. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 janvier. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Du coup, en direct à Laval et bien entourée avec Elina. Bonjour Elina.
Bonjour.
Qui va nous présenter sa chronique un peu plus tard dans l'émission.
Qu'on retrouvera effectivement un petit peu plus tard, Elina, notre stagiaire, que vous avez déjà entendu hier. Petite promotion, hein, puisqu'on était sur une simple météo hier. Aujourd'hui, toute une chronique à découvrir, effectivement, en plus en avant dans l'émission. Émission qui va nous permettre aussi de parler de cette première en Mayenne, une maison partagée pour les seniors qui est en train de sortir de terre, alternative entre la maison de retraite et le maintien à domicile. On va évoquer aussi l'aventure de la gérante du restaurant La Carotte à Mayenne qui se lance dans un tour du département à vélo à la rencontre de ses producteurs bio. Et puis on parlera aussi du rôle de la Ligue de l'enseignement dans l'accompagnement des structures qui accueillent des services civiques dans notre chronique dédié, comme son nom l'indique, au service civique. Exemple ici à Mayenne avec Andréa Diaz.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité, un début de troisième vague.
Ainsi commente Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'Agence régionale de santé, les derniers chiffres de l'épidémie. La situation s'est nettement détériorée, dit-il, avec une hausse du taux d'incidence en Mayenne à 164,1 pour 100 000 et un taux de positivité qui grimpe à 8%. La région comptabilise 10 cas confirmés de personnes infectées par un variant étranger, mais aucun en Mayenne. En parallèle, 31 000 personnes se sont fait vacciner dans la région, dont plus de 3500 en Mayenne. L'ARS conseille désormais de maintenir 2 mètres de distance entre les personnes et de continuer à appliquer les gestes barrières.
Il dénonce le manque de lits et de personnel.
Une vingtaine de soignants s'est réunie hier devant l'hôpital de Laval à l'appel de la CGT et Sud Solidaire. Des personnels du médico-social, des infirmières, des sages-femmes qui n'ont pas reçu la prime du Ségur et pointent du doigt le manque de matériel et de personnel.
Il faut sauver le 39-19.
Le député mayennais Guillaume Garot a signé un courrier adressé à la ministre de l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, en ce sens. Le gouvernement a ouvert un marché public pour désigner la structure devant gérer le 39-19 en partenariat avec la Fédération nationale santé femmes. Donc contrat qui arrive à son échéance le 1er février, les signataires s'inquiètent du risque de détérioration de l'accompagnement porté aux victimes.
3 fois plus d'escroqueries sur Internet en 2020.
Selon la gendarmerie de Mayenne, les escroqueries ont explosé à cause de la crise sanitaire. Avec plus de transactions sur Internet et davantage de télétravail, sont touchés les particuliers, mais aussi les entreprises. L'une d'entre elles a même perdu jusqu'à 120 000 euros.
Et vous pourrez aussi profiter des soldes ce dimanche.
Puisque les élus de la ville de Laval ont autorisé les commerces à ouvrir dimanche toute la journée pour compenser un peu les pertes liées au couvre-feu avancé à 18h. Pendant toute l'année 2021, les commerces auront le droit d'ouvrir 7 dimanches au lieu de 5 habituellement pour le début des soldes d'été ou les illuminations de Noël par exemple.
Repartir du bon pied.
C'est ce qu'espèrent les joueurs du stade Lavallois. Ils reçoivent Saint-Brieuc ce soir à 18h30 pour la 19e journée de National. Victoire attendue après les 2 premières défaites de 2021. Leur effectif sera renforcé avec un deuxième gardien, Over Mandanda, précieux renfort d'Alexis Sauvage. Le joueur est prêté au Lavallois pour 6 mois par les Girondins de Bordeaux. Et puis un dernier mot de voile avec le Vendée Globe où Charlie Dalin est toujours leader, suivi de près de très près même par Louis Burton, qui donc rattrape son retard en ayant pris une route beaucoup plus à l'ouest que tous ses concurrents. Maxime Sorel, sur son bateau VNB Mayenne, est toujours 10e.
Et Marie, une maison partagée pour seniors à Don.
C'est la première du département. Cette maison accueillera ses 7 premiers locataires en juillet prochain. Un projet porté par 3 aides-soignantes qui se sont inspirées des maisons Carpe Diem au Canada, destinées aux personnes atteintes d'Alzheimer. Un concept qu'elles ont ensuite adapté, précise Séverine Flon, l'une des aides-soignantes porteuses du projet.
On est parti d'un constat en fait que toutes les personnes n'avaient pas leur place en maison de retraite en fait parce que par manque de personnel et on faisait à la place d'eux en fait. Le principe de la maison partagée c'est vraiment pour maintenir l'autonomie un maximum en fait. C'est une alternative entre le domicile et l'institution. Selon le degré d'autonomie, en fait, de 1 à 6, 1, c'est l'autonomie, la personne la plus dépendante. Et en fait, 4, 5, 6 seront les bienvenus dans notre maison partagée, en fait. Des personnes qui sont en isolement, en solitude, tout seules, des personnes aussi qui sont en fauteuil roulant, mais qui ont toutes leurs capacités mentales, en fait. En fait, on ne veut pas de personnes qui ont de troubles cognitifs, justement, parce que comme il n'y a personne la nuit, en fait. Ça s'appelle tout d'abord comme à la maison, donc une maison de plein pied, en fait, où il y aura 7 chambres. Ça sera leur lieu privé, en fait, avec salle de bain d'environ 20 mètres carrés. Ces chambres seront aménagées avec leurs meubles et leur linge de maison, en fait. Et tous les espaces collectifs, c'est-à-dire la salle à manger, cuisine, buanderie, l'extérieur, parce qu'il y aura un jardin, on va avoir des poules. Ils auront un statut de locataire. Hein. Donc la maison, elle sera ouverte aux familles. Et on veut que ce soit intergénérationnel, en fait. Il y aura une professionnelle, c'est-à-dire une aide-soignante, qui sera là à temps plein, du lundi au vendredi. Par contre, il n'y aura personne la nuit. Le week-end, ça sera en fonction des besoins des personnes. En fait, prendre le temps, écouter la personne, prendre le temps, pas faire à la place d'eux. On sait que dans les institutions, par manque de personnel, pour aller plus vite, on fait à leur place, alors qu'ils sont pleins de ressources, pleins de capacités. Donc c'est vraiment prendre le temps, quoi, d'échanger, de les écouter.
Et pour en savoir plus, une permanence d'information a lieu ce lundi à Coudray, à la salle des Coudriers, de 9h30 à 11h30, où vous pouvez les contacter sinon par mail à comme à la maison, donc comalamaison53@gmail.com. On parle donc de cette nouvelle aventure, la Vélo Carotte, d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Smokey Joe and the Kid, Just Walking.
It's hard to cope with, my soft little heart is broken. I'm home alone like Macaulay Culkin. Wake up every morning groaning, soaking, waiting for the local bar to open. And I'm such a lazy mess, waiting for death to end this craziness. I put my pain to rest. Sometimes I reach out to a side of the bed, but all I find is plenty empty vodka bottles instead. What we have is truly that unique. The school teacher, the musician, the beauty and the beast. But I was always on the road, seeking dudes I had to meet. Getting hammered after shows and having groupies at my feet. It's crazy when all these ladies place you on a pedestal, poke their little titties out and claim you are incredible. Stupidness boosted the confidence I had, and one day my baby caught me packing condoms in my bag. I just started drinking to calm the tension, and not to mention stop me thinking. My body's sinking, I get washed in a minute. I'll get evicted next month, but I don't want to admit it. And I'm such a lazy mess, waiting for death to end this craziness and put my pain to rest. Sometimes I reach out to a side of the bed, but all I find is Heineken cans and bottles of red. I heard she was seeking a police officer. I'm sure he's soft, plus what more could he offer her? I started stalking her, I confronted a man. He punched and pushed me and my punch like the pussy drunk that I am. My honey was laughing, hollering, get up and then scram. Pity is all I feel, a dollar bill was dumped in my hand. She left me like a helpless freak with no self-esteem. Was doomed to dream about a powerless D-Rub, run out and cry himself to sleep. We'll be right back.
Smokey Joe and the Kid dans l'agité du local. Vous êtes toujours sur l'autre radio, évidemment. Les restaurants, eux aussi, sont toujours fermés au public, mais au lieu de le voir comme une contrainte, Ingrid Strebinger, je vais ne pas écorcher son nom, c'est mieux, la gérante de la Carotte Bistrot Créatif à Mayenne, se lance dans une nouvelle aventure, la Vélo Carotte. Elle nous donne les détails juste après une rapide présentation de son restaurant, ouvert en octobre 2017.
Alors bah moi à l'origine je voulais créer un lieu justement de rencontre, de partage en m'inspirant un petit peu de ce qui pouvait se trouver dans certains bars associatifs dans des petits villages, mais retrouver ça en ville et surtout je voulais mettre à l'honneur les produits bio mayennais, valoriser ce qui se passe en local. Donc c'est un restaurant qui est 100% bio. J'ai pas le label parce que je voulais aussi que ça reste accessible moralement, on va dire, pour tout le monde, puisqu'on sait que des fois le bio peut être un frein. Donc tous les produits que j'utilise sont labellisés bio. Par contre, le restaurant n'est pas labellisé bio. Mais les produits d'entretien sont certifiés éco-cert. Voilà. Dans la démarche, j'essaye d'aller le plus loin possible, mais j'y vais doucement parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu trop alternatif pour une petite ville peut-être comme Mayenne. Donc je laisse les gens prendre le temps de constater que c'est accessible à tous et que c'est possible.
Et donc ça, effectivement, j'imagine que ça y est, les clients ont réussi à voilà s'installer, s'approprier aussi le lieu et donc apprécier. Malheureusement, on le sait, hein, c'est compliqué pour les restaurants depuis quasiment un an maintenant, entre les fermetures, le couvre-feu, etc. Donc forcément, là, actuellement, votre restaurant La Carotte, il est fermé, mais vous êtes lancé un nouveau défi, un nouveau projet, la Vélo Carotte. Alors, en quoi ça consiste ?
Eh bien, en fait, j'ai dressé un petit peu un constat justement depuis un an là qu'on est régulièrement fermé, trop. J'ai voulu continuer d'exister parce que c'est un peu notre plus grande hantise, c'est que nos clients nous oublient pendant ce temps-là et qu'ils prennent tellement d'autres habitudes qu'ils ne soient pas au rendez-vous quand on pourra rouvrir définitivement et dans les meilleures conditions qu'on a pu avoir entre les deux confinements. J'ai fait beaucoup de ventes à emporter, mais je me suis dit, La Carotte, c'est pas qu'un restaurant. Et donc, puisqu'il faut continuer un petit peu d'exister chez les gens et puis peut-être trouver une solution ou une proposition qui soit un petit peu différente des autres, eh bien, j'ai essayé de mettre dans ma petite tête tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais envie. Et je me suis dit à un moment, est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est La Carotte et est-ce que les gens connaissent ceux qui font La Carotte? Donc, en venant avec un petit coup de shaker, la dimension familiale, le temps disponible, les envies de défis sportifs, eh bien, ça donne ma Vélo Carotte. Je vais aller à la rencontre de mes producteurs, fournisseurs, artistes. Je vais essayer de toucher le plus de monde possible. Je pourrais pas aller rencontrer tout le monde. Je vais d'abord faire un premier tour en Mayenne et dresser des portraits de carottes pour expliquer à tout le monde pourquoi La Carotte est La Carotte.
Et alors, vous savez qui est-ce que vous allez rencontrer là dans les prochains jours en premier ?
Oui, alors c'est des choses aussi qui évoluent en fonction des impératifs des uns et des autres. Mais sur les premières rencontres, je vais aller du côté de Montflour avec la BAM pour la bière. Et puis après, je vais être plus du côté du Bourgneuf-la-Forêt. Donc ce sera pour la semaine prochaine. Aller rencontrer mon paysan boulanger qui me fait mes pains burgers et également Eric Jean qui me fournit tous les vins à La Carotte.
Donc ça permet, j'imagine, eux aussi, ces producteurs, de les mettre en valeur et puis aussi de prendre le temps de les rencontrer, parce que même si vous les connaissez, c'est quand même différent de là vraiment prendre le temps de faire
leur
portrait.
Exactement. Ben en fait, depuis que j'ai créé La Carotte, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai toujours eu envie d'avoir un mur avec les portraits de mes producteurs, fournisseurs, pour les mettre en valeur ailleurs que dans mon assiette et pour que les gens apprennent à les connaître aussi. Malheureusement, le contexte aussi de gérer La Carotte toute seule a fait que j'étais pas disponible et j'avais peu de temps pour ça. Aujourd'hui, j'ai du temps et comme vous le dites si bien, quand Cédric vient me livrer de la BAM, souvent il me dit « je te pose les fûts au fond, je récupère les vides ». Ouais, ça marche, bon, on se rappelle pour la prochaine livraison. Ok, voilà, ça se passe comme ça, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc aujourd'hui, je vais aller les rencontrer, faire un portrait. Je suis très amatrice, que ce soit en photo ou en écriture. Mais l'idée, c'est qu'ils soient vus aussi avec mes yeux et ce qu'ils me font ressentir à moi. et puis de le partager aux gens pour que, parce que eux aussi, tous ceux qui viennent à la carotte peuvent aussi se fournir localement avec ces produits-là.
Et alors justement, ces premiers portraits, où est-ce qu'on pourra les retrouver ?
Alors, les portraits, en fait, à chaque rencontre, il y aura un portrait, un petit récit. Et puis, à chaque fois, je ferai un petit retour sur Facebook, le site ou la page Instagram. Mais ce ne sera pas le portrait qui sera sur l'expo qui sera définitive à la carotte. Ça, il faudra venir à la carotte quand ça va rouvrir pour voir ce portrait-là. Et puis, peut-être un projet de livre à l'avenir, mais ça, on verra si le temps me le permet et puis si j'y arrive à faire ce que j'ai envie vraiment là-dedans. Et voilà. Parce que l'idée, c'était aussi de me sortir un petit peu de l'isolement parce que c'est vraiment dur ce qu'on est en train de vivre, tous les commerces qui sont fermés administrativement. On voit tout le monde qui va au travail, nos enfants qui vont à l'école, tout le monde qui a une vie, on va dire, quasi normale, puisque bon, on a quand même les masques, les couvre-feux, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile pour tout le monde. Mais nous, on est enfermés, on n'a pas le droit de travailler, et on fait un métier où on est à la rencontre des gens tout le temps. Notre quotidien, c'est de raconter des histoires à travers nos plats, d'écouter ceux qui viennent au comptoir commander une bière et qui nous racontent leur journée. Et aujourd'hui, moi, je suis toute seule, donc j'ai besoin aussi de retrouver un petit peu de vie en moi pour continuer d'y croire et d'attendre demain sereinement.
Oui, c'est aussi, j'imagine, comme vous le dites, retrouver ce lien social qui manque en ce moment, vraiment.
Complètement. C'est vraiment sortir de cette solitude et aller à la rencontre des gens, puisque d'habitude, c'est les gens qui viennent à moi. Hein, je les attends dans ma carotte. Donc bah, aujourd'hui, je vais aller voir, dans un premier lieu, vu qu'on est fermé, a priori, jusqu'à mi-février, à minima, puisqu'on n'en sait pas beaucoup plus. Donc l'incertitude et le flou étaient souvent un frein au tout début pour moi sur mener des projets. Puis aujourd'hui, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, si j'attends encore longtemps, après, j'aurai plus le temps. Donc je vais commencer vraiment par aller producteur-fournisseur. Bien entendu que quand j'irai dans un coin où j'ai un artiste qui est sur le passage, j'irai le rencontrer et dresser son portrait. Mais voilà, je vais vraiment, l'objectif, c'est vraiment dans un premier temps de refaire la lumière un petit peu sur ceux qui nous produisent des produits de qualité en bio en Mayenne. Et en même temps, je remettrai mon site à jour. Comme ça, les gens pourront trouver à chaque fois les références, les coordonnées des personnes que j'aurai référencées.
Donc ça peut être pratique, vous l'avez dit, pour vos clients. Mais aussi, j'imagine que ça a été bien pris de la part des producteurs, cette démarche. Comment est-ce qu'ils ont réagi lorsque vous les avez contactés ?
Bah alors, je les ai pas encore tous contactés. Hein. Aujourd'hui, je fais au fur et à mesure. Ils sont agréablement surpris. Je pense que tout le monde trouve que c'est une bonne idée, mais chacun est impatient de voir ce que ça va donner. Moi, la première. Je pense qu'on sait pas trop encore comment ça va se goupiller. Est-ce qu'on va faire quelque chose où je vais écrire des questions et tout le monde aura les mêmes questions. Je pense que ça va aussi évoluer au fur et à mesure du temps dans mes rencontres avec les gens. Et j'ai aussi pour but de réussir à apporter un petit plus aussi à la structuration de l'approvisionnement en bio en Mayenne. Donc en faisant un petit état de pourquoi c'est chouette de travailler en direct, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on aimerait avoir en plus. Voilà, parce qu'une fois que je serai allée voir tout le monde, on se rendra compte qu'il y aura beaucoup de monde et que au quotidien, ou en tout cas à la semaine, ou même au mois, c'est compliqué de trouver le temps d'appeler tout le monde, de gérer, enfin faire toute la gestion sur l'approvisionnement quand c'est en direct. Donc voilà, essayer de trouver des solutions, puisqu'il y a déjà une structure qui s'appelle Manger Bio 53, mais qui est plus adressée à la restauration collective. Donc c'est pour voir si au niveau restauration commerciale, il y aurait des moyens de s'organiser un petit peu mieux, et puis peut-être dans un second temps, avoir une étude en se rapprochant du CIVM bio, si eux veulent transmettre aussi soit un questionnaire sur les besoins pour chaque restaurateur. L'objectif, c'est toujours aussi de réussir à développer cette agriculture biologique et la façon de faire autrement, d'essayer de toucher un petit peu tout le monde en Mayenne.
Donc oui, au-delà du simple, alors avec des guillemets, hein, du simple portrait de chaque producteur, ça permettra aussi de prendre un peu de hauteur et oui, comme vous le disiez, de voir un petit peu où en est la production agricole bio en Mayenne, de répertorier. Est-ce que vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler ou pour l'instant c'est vraiment juste une idée?
Non, pour l'instant, déjà ça évolue tous les jours. Alors après, il y a le Sylvain Bio qui a déjà fait un catalogue de tous les producteurs bio mayennais et même également des commerces qui commercialisent en local, en bio. Donc voilà, ils ont déjà fait un super travail là-dessus. Moi, honnêtement, je vais être vraiment plus sur la dimension de la relation entre le restaurateur et le fournisseur, parce que en plus, nous, on a des petits volumes qui sont plutôt réguliers. Enfin, voilà, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aménage notre façon de faire en ayant des chambres froides qui soient plus grandes? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est une camionnette qui collecte et puis qui permet qu'on soit livré qu'en une fois, mais plusieurs fois par semaine, et qu'on soit pas obligé de commander trop de produits. Enfin voilà, c'est d'essayer peut-être de trouver des solutions, parce qu'on bricole tous et que aujourd'hui moi j'ai le temps de me pencher dessus et que ça m'intéresse. Et si ça peut servir à quelqu'un en plus de moi, ce serait chouette.
Pour tout ça, par contre, il va falloir du temps. Là. C'est difficile de se projeter, mais vous vous dites en tout cas là pour fin janvier et le mois de février, je me consacre à ce projet La Vélo Carotte, ou comment est-ce que vous voyez les choses?
Exactement, voilà. Enfin là, pour l'instant, clairement, on sait qu'on va pas rouvrir avant le 14 février et il y a peu de chances qu'on ouvre avant le 1er mars. Donc je me consacre à ça, sachant que je suis aussi maman, hein, donc j'ai aussi la vie qui m'a offert du temps pour mes enfants, chose que j'avais peu. Depuis que j'ai ouvert la carotte, donc j'ai pas envie de nouveau de sacrifier ce temps qui est un petit peu précieux. Donc, je vais faire des semaines où j'aurai des parcours en étoile parce que j'ai mes enfants et que je veux leur accorder du temps. Et puis des semaines où je vais faire de l'itinérance parce que je vais aller jusque dans le sud de Mayenne et en respectant le couvre-feu, même si je m'entraîne et que j'ai des gros mollets, j'aurai difficilement le temps de faire des allers-retours jusqu'à la carotte. Donc ça va s'organiser au fur et à mesure en fonction des disponibilités de chacun, des contraintes qui vont peut-être venir s'ajouter à ce que je suis en train de faire, que ce soit mécanique ou autre. Après, j'ai la chance d'avoir le magasin Au Grand Bi à Mayenne qui se place comme partenaire. Donc moi, j'achète mon matériel chez eux et eux me font l'entretien de mon vélo pendant tout le périple.
Oui, parce que ça va être aussi un défi, comme vous le disiez, sportif. Hein, si vous allez jusque dans le sud Mayenne, il faut tenir.
C'est ça, voilà. Bon, je suis pas mon premier exploit, on va dire. C'est pour moi presque un exploit de faire ça, pas pour d'autres. Sportif, je suis une amatrice de raids sportifs et solidaires. J'en ai déjà fait plusieurs. Je suis déjà partie plusieurs fois à vélo, donc ça me connaît un petit peu. Mais on n'est pas à l'abri, mine de rien, de se blesser ou autre. Donc c'est pour ça que j'ai annoncé hier sur la page Facebook et sur mon site et Instagram, sur les réseaux, le projet, en partageant le fait que chaque vendredi je vais donner une feuille de route pour la semaine qui suit. Comme ça les gens vont savoir un petit peu ce qui va se passer la semaine d'après, et également ça permettra à ceux qui ont du temps et qui ont envie de vivre aussi cette aventure avec moi de me rejoindre et de partager un bout de route avec moi s'ils en ont envie.
Et donc, en tout cas, ça marche bien via les réseaux sociaux. On pourra suivre votre parcours, votre projet, vous contacter si on a envie de rejoindre. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un bon départ à vélo?
Oui, voilà. Normalement, c'est donc là, aujourd'hui, je finalise l'organisation. Demain, je finalise ma feuille de route. Tout ça sera partagé pour faire vivre un petit peu les choses à tout le monde. Et puis, premier départ, alors là, ça, je sais pas encore, ce sera mardi ou mercredi, ça dépend en fonction, parce que je veux aussi tenir un peu compte de la météo, soit mardi, soit mercredi, en fonction des disponibilités.
À voir. En tout cas, l'aventure est à suivre, notamment sur la page Facebook La Carotte Bistrot Créatif. On revient d'ici quelques minutes, 2 minutes 46 pour être précis, c'est le temps de la chanson de Balthazar So Easy.
My friend, this is the end. Got tired to pretend. Well, the days are so few. Who's to say And where do we pray? And who's it will pay for all the things we do? Look further no more. Got nothing in store on everyone we swore while they aren't here no more. You know our deal is done, no one has won. The scene that is dead won't lead us to our bed. You were so easy and down from the start and bound to part. But that's something we both should know. You were so easy, down from the start and bound to part. Waiting, my friend, this is the end. Got tired to pretend while the days are so few. You know who is to say and where do we pray? And who's who will pay for all the things that we do? So easy, down from the start and bound to part. But that's something we both should know. You were so easy, down from the start and bound to part. That's easy.
Chaque vendredi, on part à la rencontre des acteurs du service civique dans la région, volontaires, tuteurs ou structures potentielles. Aujourd'hui, on donne la parole à Andrea Diaz de la Ligue de l'enseignement de la Mayenne qui accompagne les structures accueillant les volontaires en service civique.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
En Mayenne, les associations et structures qui s'interrogent sur le service civique et pensent pourquoi pas à engager des volontaires peuvent contacter Andrea Diaz. C'est la coordinatrice du dispositif service civique à la Ligue de l'enseignement et de la Mayenne. Elle a plusieurs casquettes, l'organisation des formations pour les volontaires, mais aussi l'accompagnement des structures.
On coordonne un programme départemental de formation avec deux autres organismes, le CAS et la DDCSPP. J'interviens également sur la formation pour les organismes d'accueil, tuteurs, tutrices de volontaires en service civique. Donc c'est un programme départemental en partenariat avec l'association Unicité. Et puis, donc ça, c'est dans le cadre d'un marché national porté par l'Agence du service civique. Nous, à la Ligue de l'enseignement, en fait, on va accueillir sur l'année une quarantaine de volontaires en service civique. Donc il faut à la fois faire le lien avec les structures qui souhaitent s'engager dans ce dispositif-là. Donc ça, c'est une première partie, la mise en relation avec ces structures, les accompagner sur la création de la fiche mission, la sélection des volontaires en service civique, la mise en place de la mission de service civique. Et puis, je fais le lien également avec les jeunes qui sont en recherche d'une mission de service civique. Donc, je peux les accompagner sur des temps individuels pour les rencontrer, les informer sur le dispositif. Cette année, moi, je trouve qu'il y a quand même un certain équilibre cette année. Les structures n'ont pas été réticentes, justement, à s'engager à nouveau sur l'accueil de volontaires en service civique. Donc, on a quand même une belle diversité de missions à proposer sur l'ensemble du département et sur plein de secteurs d'activités différents. Moi, généralement, je dis que pour une mission de service civique, c'est 7 à 8 candidatures, sachant que sur 7 à 8 candidatures, on arrive à rencontrer en entretien de motivation 3 à 4 jeunes. Voilà, ça, c'est la moyenne. Il y a des structures qui ont entendu parler du dispositif, mais sans véritablement savoir quelles sont les conditions en fait pour accueillir un volontaire, ce que ça nécessite comme temps d'accompagnement, de tutorat. Donc moi, je vais renseigner les structures de ce point de vue-là. Parfois, on me pose la question aussi, c'est quoi le mieux pour la structure ? Ce serait d'accueillir un stagiaire ou d'accueillir un volontaire en service civique. Donc moi, ça me permet de donner les informations nécessaires aux structures pour qu'elles prennent leurs décisions en connaissance de cause, parce qu'effectivement, c'est deux statuts différents et on confie pas la même mission à un stagiaire qu'à un volontaire en service civique. Si les structures, après avoir pris connaissance des conditions d'accueil d'un volontaire en service civique, si elles sont partantes, dans ce cas-là, moi, je les accompagne sur toute la suite, en fait, d'entrée dans le dispositif, donc sur la création de la mission, la publication de la fiche mission, la sélection des volontaires, etc. Et je dirais qu'une des craintes principales, peut-être, pour les structures, c'est le temps, justement, que nécessite le tutorat et la accompagnement d'un volontaire dans la mission, parce que les volontaires rentrent sur la base de motivation. Donc les jeunes ne sont pas forcément expérimentés ou diplômés dans le domaine de la mission. Donc il faut que les structures aient conscience de ça aussi. Il faut mettre en place un parcours d'accueil et de formation pour que les jeunes aient les connaissances suffisantes pour réaliser leur mission de service civique. En fait, c'est une obligation, hein, la formation des organismes d'accueil. Toutes les personnes qui sont tuteurs, tutrices de volontaires sont dans l'obligation de se former justement au premier module. Donc c'est une journée complète de formation sur la découverte du rôle du tuteur, en fait. C'est aussi l'occasion d'être sur du partage d'expérience entre les organismes d'accueil, sur le partage de ressources et d'outils à mettre en place aussi pour accompagner et suivre le volontaire dans sa mission de service civique. Mais c'est pas suffisant. Je pense qu'en amont, il faut prendre quand même connaissance et conscience du temps que ça va nécessiter d'accueillir et d'accompagner un volontaire. Et puis c'est un projet collectif aussi. On va former un tuteur ou une tutrice parce qu'on est sur ce principe de tutorat en fait quand on parle du service civique, mais c'est bien la structure d'accueil qui fait le choix collectivement d'accueillir et d'accompagner un volontaire.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Une chronique à retrouver comme toutes les autres chroniques de service civique sur notre site l'autreradio.fr. Et puis on est chanceux aujourd'hui parce que nous avons une deuxième chronique proposée par notre stagiaire Elina qui nous propose justement de parler d'un événement pas comme les autres, le May Ethic Trail.
Oui, c'est ça. Je vous en parle car j'ai été moi-même bénévole là-bas il y a 2 ans. Il s'agit d'un trail éco-responsable local qui aura lieu le samedi 5 juin 2021. Situé à Saint-Jean-sur-Mayenne, cet événement sportif propose différentes courses pour tous les niveaux dans un environnement naturel. Il propose également un marché bio et une restauration la journée et le soir.
Donc un grand programme nous attend. Comment se déroulera alors cette épreuve ?
Eh bien, durant la journée, il y aura 7 courses. Une course pour les plus jeunes avec différents niveaux de 1 à 3 km. Elle se déroulera en pleine nature et passera dans un ruisseau pour découvrir le trail, mais aussi une course de 7 km avec un nouveau parcours traversant les différentes facettes du village et là encore en traversant un cours d'eau. Il y aura d'autres courses, elles aussi nouvelles, une de 12 km, une de 25 km et une dernière course de 50 km pour les plus motivés et avec un peu plus de dénivelé. Les différentes courses seront toutes en pleine nature, le long des rivières, sur des chemins et passeront dans les communes aux alentours. Et si vous ne souhaitez pas courir, il existe une marche nordique de 12 km. N'hésitez pas à vous inscrire par internet, à condition de signer une charte éco-trailer pour vous engager à respecter l'environnement tout au long de votre course. Les inscriptions de la 5e édition sont maintenant ouvertes. En raison des conditions sanitaires incertaines, le My Ethic Trail s'engage à mettre en place un protocole sanitaire qui permettra la sécurité de tous. En cas d'annulation en raison du Covid, durant un remboursement des frais d'inscription sera effectué. L'événement est une épreuve sportive et une action festive de sensibilisation au milieu naturel, au développement durable et à une alimentation locale de qualité. les organisateurs s'engagent à appliquer autant que possible les principes de développement responsable et écologique avant et pendant le déroulement de la journée et de l'après-trail. Ils proposeront des produits alimentaires en organisant un marché avec des producteurs locaux et bio. Ils proposeront une restauration en journée et le soir. Des associations naturalistes locales seront aussi présentes pour sensibiliser au respect et à la richesse des milieux naturels. En 2019, le My Ethic Trail a souhaité participer à la co-construction d'un label événement éco-engagé en Pays de la Loire, initié par le réseau éco-événements Rêve. Le Rêve a pour objectif de mobiliser l'ensemble des événements et de la région pour lutter contre les dérèglements climatiques et donc faire du My Ethic Trail événement de la région pour lutter contre les dérèglements, le premier événement de la région pour lutter contre les dérèglements climatiques.
Donc le My Ethic Trail, vas-y, ce serait donc le premier événement éco-responsable labellisé en Mayenne. Et vas-y, donc en 2021.
Il relève donc le défi d'obtenir le niveau 1 du label événement éco-engagé. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site myethictrail.fr et si vous souhaitez aider à l'organisation en tant que bénévole, vous pouvez les contacter par mail à bénévole@myethictrail.fr.
Merci beaucoup Elina pour cette chronique complète donc sur le My Ethic Trail. Évidemment, hein, je m'étais un petit peu trompée sur la prononciation au début, qui aura donc lieu, si tout va bien, on croise les doigts, début juin. Et donc, je vous le disais, vous êtes vraiment chanceux aujourd'hui puisqu'il y a même une troisième chronique, celle de Swazik, qui nous permet de découvrir les histoires de nos objets du quotidien auxquels on ne fait même plus attention. Je vous laisse écouter. Bonjour Swazik, aujourd'hui on découvre l'histoire d'un nouvel objet, l'ampoule électrique.
Eh oui, bonjour Marie. Quoi de plus banal que d'appuyer matin et soir sur un bouton pour compenser l'absence de lumière? Quoi de plus invisible dans une maison que cette ampoule qui sert à voir dans l'obscurité? Si l'on devait citer un objet du quotidien qui éclaire le grand magasin du monde, eh bien ce serait évidemment l'ampoule. Et non seulement ce petit objet éclaire nos maisons, nos bureaux, nos rues et nos voitures, mais elle éclaire également la marche de notre monde. Car en effet, l'ampoule est par définition le symbole du progrès technique qui a apporté tant à l'humanité, que ce soit en termes de confort pour se chauffer, de santé pour ne pas s'user les yeux dans la pénombre, de rentabilité pour travailler plus tôt le matin et plus tard le soir, ou de sécurité pour se promener le soir dans des villes éclairées et sécurisées. Inimaginable aujourd'hui de vivre sans ampoule. Mais l'ampoule, c'est également la lumière sur des zones d'ombre de notre système économique. En effet, dès sa naissance à la fin des années 1870, sa qualité et son prix sont décrétés par un cartel mondial qui regroupe le Japon, la Hongrie, la Grande-Bretagne, le Brésil, Chine, Mexique, France, etc. Les producteurs de tous les pays s'unissent en effet pour maintenir un prix élevé, limiter la concurrence et mettre en place pour la première fois l'obsolescence programmée. Alors l'obsolescence programmée, ça veut dire que lorsqu'une ampoule est conçue pour briller 2000 heures, eh bien en fait les constructeurs s'entendent pour qu'elle s'éteigne au bout de 1000 heures. Vous comprenez leur intérêt. Alors évidemment, des dizaines de milliers de clients sont donc privés d'alternatives moins onéreuses et de meilleure qualité. Ça va d'ailleurs poser un sérieux problème à la Scandinavie, qui, comme vous le savez, passe une bonne partie de l'année dans la pénombre. Et c'est donc au nom de ces consommateurs que la Scandinavie donc va créer en 1920 une coopérative de consommation censée concurrencer le fameux cartel mondial. Mais cette tentative de démocratisation du progrès échoue avec l'arrivée d'ampoules japonaises beaucoup moins chères, même si beaucoup moins fiable. Aujourd'hui, l'aventure de l'ampoule continue, puisque depuis 2010, les ampoules à LED se substituent aux ampoules à incandescence pour répondre aux contraintes environnementales. On pourrait ainsi dire qu'on n'arrête pas le progrès. Sauf que ce progrès reste en fait limité à une partie du monde, suffisamment riche pour s'offrir le luxe de la lumière. En effet, à ce jour, 1,2 milliard de personnes, principalement en Afrique, n'ont toujours pas accès à la lumière artificielle. Alors vous voyez, Marie, dans le grand magasin du monde, il est des objets moins partagés que d'autres, Ce qui relève de la banalité pour certains devient un véritable trésor pour d'autres.
Et ça donne comme d'habitude à réfléchir. Merci beaucoup Soazic, on vous retrouve mardi. Et c'est désormais l'heure de notre rubrique initiative présentée par Claire. Après plus de 30 ans, le logo de la ville de Saint-Perthevin va changer, Claire.
Et oui, et c'est vous qui décidez. La ville veut redynamiser son image et attirer ses plus jeunes habitants via les réseaux sociaux. Elle vous invite donc à voter pour votre logo préféré. Il s'agit de celui présent sur les bâtiments officiels, sur les panneaux de la ville et sur les véhicules municipaux. Vous avez le choix entre le premier logo avec une typographie simple et colorée, le deuxième plus ronde et toujours aussi colorée, et la troisième avec une écriture simple et les couleurs autour du nom de la ville. À vos votes, donc, vous pouvez retrouver le formulaire de ce vote sur le site internet de la ville de Saint-Berthevin. Il sera à réaliser avant le dimanche 7 février.
Et on vous en parlait hier, les nuits de la lecture ont commencé et le programme se densifie.
Et oui, temps fort national, demain samedi, on retrouve de 9h30 à 10h un rendez-vous pour les petits jusqu'à 3 ans, bébé lecteur interactif, une séance de lecture d'histoire, de comptines et de jeux de doigts en direct via visioconférence. De 10h15 à 11h30, les enfants de 4 à 10 ans sont invités à une séance de lecture de contes et d'histoires rigolotes. De 16h à 17h, les jeunes de 6 à 12 ans ont rendez-vous avec les personnages de Jules Verne pour réussir le pari du Tour du Monde en 80 jours. Le lien d'inscription pour ces visioconférences est à retrouver sur le site et sur le compte Facebook Les Nuits de la Lecture.
Merci beaucoup Claire, en tout cas c'est toujours appréciable de voir qu'il y a des événements qui continuent d'être maintenus malgré cette pandémie. En parlant de compte Facebook, n'hésitez pas à nous suivre en suivant donc le nom du compte L'Autre Radio tout simplement. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local de ce vendredi. Merci Claire, merci Elina.
Merci Marie, merci tout le monde et bon week-end.
Et oui, bon week-end, mais... attention, vous ne partez pas tout de suite puisque c'est le retour de l'agenda à 19h sur notre antenne avec en invité Maël Grenier, le directeur du Carré, la scène nationale et le centre d'art contemporain d'intérêt national de Château-Gontier. Il présente son projet axé autour de la famille et de notre modèle sociétal environnemental à découvrir à 19h. Ce sera suivi à 20h de Passe-moi le thème avec une soirée spéciale tribute à Genesis. Et puis nous, vous l'avez compris, on se retrouve lundi à 12h15. Je vous souhaite un très bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.